Très bien ça. Donc, non mais je suis obligé donc de faire avec donc non, je vous tiendrai pas plus longtemps que prévu, c'est promis. C'est un peu improvisé, hein, donc quand j'aurai fini, je m'arrête. Quelle heure on m'a dit exactement 16h30, c'est ça?
Oui.
16h30, d'accord. Bon, je vais, disons 25. Alors, je ne remercie pas Roland de ses remarques parce qu'il a volé ce que j'allais dire. Je voulais commencer en disant un grand merci à Pierre Paquet, hein, parce que c'était vraiment une étude excellente. Donc, tu vois, on est vraiment d'accord, Roland. Et en plus, il m'a permis de m'évader un peu. Parce que vous avez vu qu'il a dit beaucoup de choses sur la croissance dans l'Église, aussi bien qu'individuelle. Il a bien dit que l'un ne va pas sans l'autre. Alors finalement, Pierre disait quoi? La croissance individuelle ne peut se faire que dans le cadre de l'Église. Et l'inverse est également vrai. L'Église ne peut pas croître, ne peut pas grandir, si les membres de l'Église ne croissent pas, ne grandissent pas, ne se développent pas. Ou pour prendre une autre image, la flottille n'est pas plus forte que les bateaux, les bâtiments qui le composent. Donc c'est très important que chacun de nous ait à cœur de grandir dans le Seigneur, et c'est ainsi que l'Église va grandir. Très important. Alors je vous disais oui, alors prenez tout ce que Pierre a dit. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut mettre ton PowerPoint. Alors, moi je me sers d'Impress d'ailleurs, je me suis libéré de Microsoft, mais ça c'est autre chose. Alors, si on peut mettre un PowerPoint sur le site d'une église, Anderson. Oui, mais je ne t'avais pas vu tout à l'heure, parce que tu es moins visible qu'avant. Donc... donc... Tu parleras, tu t'entendras, Anderson, avec Pierre, parce que il faudrait que nous ayons accès, pas seulement à la fameuse page que tu nous as donnée et qui nous fait poser pas mal de questions, mais également à tout le reste. À un moment donné, je me suis intéressé au sujet de la croissance de l'Église. C'est au début du siècle dernier, je crois, si je m'en souvenirai bon, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est en 1910 qu'un Anglais a écrit un livre, je crois qu'il s'appelait Roland Allen. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les méthodes missionnaires, les nôtres ou bien celles de Saint Paul ». Ah oui, c'est un anglican, donc lui, il a eu sympa. J'espère que ça vous choque. J'ai trouvé, en fait, le titre très intéressant, mais ce livre, vous savez, est resté sans écho pendant pas mal de décennies. Et pourtant, c'est une excellente question. Si nous voulons faire travail missionnaire, si nous voulons être les ambassadeurs de Dieu dans le monde, eh bien, il faut parfois mettre ces méthode en question, c'est sa façon de faire en question. Et quelle meilleure façon de se mettre en question que de comparer ce que l'on fait à ce que l'on trouve dans la Bible. Donc je vous dis, ce livre est resté dans les tiroirs comme ça, il était publié, et puis on n'y en parlait pas. Et puis un Américain qui s'appelait Donald McGovern, Donald McGovern si vous préférez, a écrit un livre qui s'appelait How Churches Grow. D'accord, moi aussi je peux faire de l'anglais, comme des chorales. Comment croissent les églises? Il a essayé de porter ou d'utiliser les acquis de la sociologie et l'étude justement de l'être humain pour voir un peu comment l'église grandit, ce qui les fait grandir et ce qui les empêche de grandir. Ce livre, lui, il a eu beaucoup d'impact. Et d'ailleurs, grâce à McGovern, on a commencé à lire le livre de Allen, le premier dont que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça fait beaucoup couler beaucoup d'encre. Il y avait des pour et des contre. Il y avait des gens qui disaient ouais, mais bon, ça c'est tout, ça c'est très bien, mais tout ce qu'il faut faire, c'est prêcher l'évangile. Et d'autres disaient non, 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 hein, il faut quand même qu'on ait un peu de science, un peu de réflexion. Ce qui s'est passé par la suite, par contre, c'est peut-être pas une bonne chose, c'est que c'est devenu une méthode, une sorte de recette où les gens se disaient, vous voyez, il n'y a qu'à faire ça, 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 et vous aurez une énorme église. C'est ce que Dieu veut, non? Et puis, malheureusement, ça n'a pas fonctionné à tous les coups. Ça n'a pas toujours marché. Alors, finalement, les gens ont commencé à se dire, bon, c'est peut-être pas si bien que ça, McGavran. À ce moment-là, il y a un Allemand qui s'appelait Christian Schwarz, Christian Schwarz, qui a écrit un livre qui était traduit en français, qui en français, c'était Le développement naturel de l'Église. Roland connaît, hein, il connaît son affaire. Et ce livre est très intéressant parce que c'était basé sur une étude dans le monde entier où ce Schwarz a dit, on va voir comment les églises grandissent, ce qui les fait grandir, ce qui les empêche de grandir, on va faire une étude, hein, sur des centaines de cas différents. Hein, et il a une chose, il y a une chose que j'ai retenue de son livre qui est excellente, il est quelque part dans mes affaires. Je ne vais pas déballer depuis qu'on a déménagé. Mais il a dit ceci, il a dit, vous voyez, c'est un peu comme la croissance naturelle, c'est-à-dire la croissance des plantes. Un agriculteur veut faire pousser ses plantes et ça ne pousse pas aussi bien qu'il le voudrait. Donc il consulte quelqu'un qui dit, bah, il va mettre de l'azote. Il n'y a pas assez d'azote dans votre terre, donc il faut en mettre. Alors, il dit, bah, ok, et donc il met l'engrais qu'il faut, etc. Et évidemment, l'année suivante, il a des plantes magnifiques, hein, ça pousse les herbes, c'est formidable. Alors il dit, eh ben, l'année prochaine, je mets un sacre plus. Et ces plantes, eh ben, elles meurent. Alors je parle, ça dit, vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que il y a des périodes dans l'histoire où on a besoin de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours la bonne chose, qu'il faut toujours la bonne méthode. Parfois, il faut apporter autre chose. Donc, par exemple, une église où on lit la Bible, mais qu'on n'a pas étudié dans le détail, on n'est pas allé chercher vraiment la parole de Dieu, hein, et comprendre ce que ça voulait dire, a besoin d'études. Alors, on multiplie ces études, on ne fait que ça, on fait qu'étudier la Bible. Et puis, au bout d'un moment, quelqu'un dit, oui, mais d'accord, les études, c'est bien, mais bon, c'est un peu fastidieux quand même, mais peut-être faudrait peut-être autre chose. Et l'Église, à ce moment-là, devrait se dire, eh bien, peut-être qu'on a un peu oublié de prier, ou peut-être justement, on devrait chanter davantage ensemble. Il y a quand même une vie communautaire. Une église peut se dire, ce qui est important, c'est de s'occuper des SDF, par exemple, des gens qui n'ont rien. Alors on se lance à fond là-dedans. On peut même s'associer à d'autres associations qui ne sont même pas chrétiennes, parce qu'il faut vraiment faire quelque chose. Si Jésus était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Il a dit, hein, celui qui donne un verre d'eau, hein, quelqu'un en mon nom, c'est à moi qu'il donne ce verre d'eau. Donc on se lance à fond là-dedans. Et puis, les chrétiens se rendent compte, mais on a un vide intérieur. On se donne, on se donne, on se donne, mais peut-être il faudrait quelque chose d'autre. Donc je trouve que Schwartz a été assez perspicace avec cette idée-là. On dit, oui, vous me dites, ça tombe sous le sens. Ah, mais c'est toujours le cas, n'est-ce pas? Quand on dit quelqu'un quelque chose de sensé, et on se dit, bah oui, c'est sensé, mais il fallait bien quelqu'un pour le dire. Hein? Donc je remercie ce monsieur Christian Schwartz, retenez le nom. Pour avoir dit ça. Mais je ne suis pas venu, je n'ai pas fait le déplacement à Lille cet après-midi pour vous parler de méthodes, ou d'études de ce genre. D'ailleurs, ça pourrait être un peu décourageant pour nous. Quand on regarde, vous vous rendez compte, je peux même regarder 40 ans de vie active dans la prédication de l'Évangile ici en France. Ça commence à être un peu long. Vous vous souvenez, hein, avant, il fallait que l'on retienne le conservatoire de Lille. Hein? Oui, évidemment, ce n'était pas ce beau bâtiment. On était 3 millions d'or, c'est ça C'était un peu plus étroit, hein, l'église. Vous l'avez pas bon maintenant, vous avez cette belle salle. Mais n'empêche que, hein, peut-être, on pourrait se dire, mais quel est le résultat de tout le travail qui a été fait, tous les efforts fournis, toutes les méthodes qu'on a recherchées, toutes les imprimes, le matériel qu'on a imprimé. Tant d'heures, tant de travail, tant d'efforts donnés. Et est-ce que vraiment il y a quelque chose de solide? Ben, je voudrais vous dire que oui, d'abord. Oui, absolument. Je regarde là, je vois deux choses, hein, en gros. Il y a deux sortes de personnes dans cette salle en ce qui me concerne, Georges. Il y a les personnes que je connais très bien, il y a les gens que je ne connais pas, vous voyez. Et c'est très bien comme ça, hein, parce que, regardez, voilà, je vois des visages que je connais depuis très 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 longtemps, et vous êtes là, vous êtes encore là. Hein. Et c'est grâce à vous, oui, peut-être en partie, mais surtout parce que vous avez mis votre confiance en Dieu. Donc vous êtes là, vous tenez bon, hein, grâce au Seigneur. Et puis je vois d'autres visages, hein, je pourrais vous désigner d'autres personnes que j'avoue, je suis désolé, mais je ne connais même pas votre nom. Hein, ce n'est pas ton cas, Marie-Claire. Hein, ouais, je ne t'ai pas dit bonjour. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas dit bonjour? C'est parce que j'étais en train de parler avec Richard, avec mon vieux copain Richard, pendant toute la période de la pause, et j'ai pu dire bonjour à personne. C'est ce qui arrive quand Richard et moi on se retrouve. Donc, désolé. Mais je suis très content de vous voir tous les deux, là, au fond de la salle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des gens que je ne connais pas. Hein, des gens, ce n'est pas parce que je suis timide, hein, c'est vrai que je suis timide, hein, mais c'est vrai. Mais c'est surtout parce que ben, vous êtes plus nouveau, hein, on n'a pas eu l'occasion de fraterniser parce que, quand même, il y a de la croissance dans l'Église. Alors, de quoi voudrais-je vous parler? Eh bien, nous regardons vers l'avenir parce qu'on peut regarder vers le passé et c'est utile. Hein, comme quand on est dans une voiture, il faut quand même avoir les rétroviseurs. Hein, c'est pas inutile, n'est-ce pas, hein? Mais pourquoi? Parce que, non pas parce qu'on fait marche arrière, mais parce qu'on avance. On a besoin de savoir ce qui est en arrière pour pouvoir bien avancer. Mais nous n'avons pas le choix. Hein, nous n'avons pas le choix. Je ne sais pas si vous auriez choisi, vous, de vivre au 21e siècle. Je ne sais pas. Hein. Point de vue musical, moi, je préfère nettement 18e. Mais bon, ça, c'est mon choix personnel. De toute manière, je n'ai pas le choix. Je vis aujourd'hui. Et demain est entre nos mains, est entre les mains de Dieu. Et il y a bien les deux, n'est-ce pas? Nous sommes coéquipiers avec Dieu. C'est Paul, l'apôtre Paul qui le dit. Donc, notre avenir spirituel, l'avenir spirituel de l'Église dépend de Dieu, de ce que nous demandons à Dieu, de l'opportunité de nos prières, et cela dépend aussi de ce que nous ferons. Mais nous ne savons pas ce qui va arriver demain, ni après-demain, ni dans 50 ans. Le Seigneur reviendra peut-être, peut-être pas, nous ne savons pas. Ce qui est important pour nous, c'est que Dieu nous a mis ici sur cette terre pour briller comme des flambeaux dans le monde. C'est notre travail. Maurice Hall, certains d'entre vous le connaissaient personnellement, d'autres ont entendu ce nom, un des premiers missionnaires à Paris, Maurice, disait « Le Seigneur m'a envoyé pour semer. Il ne me demande pas d'être un expert en terreau. Je ne suis pas obligé de tout savoir, moi, ce que je fais, c'est de semer. Il y a tellement de choses que moi, je ne sais pas. Tellement de choses. Si peu de choses que je comprends. Beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais je suis prêt à mettre ma main dans la main de Dieu et d'aller tout simplement vers demain et puis après demain. Et essayer de faire moins de mal que de bien pendant mon pèlerinage. Avec l'aide du Seigneur, je parviendrai. Alors, une chose que je voulais vous dire avant que le temps soit écoulé. J'ai été fortement frappé. Je suis en train de relire l'histoire de l'Église en ce moment. par l'historien américain Kenneth Scott Latourette, un nom très américain, pas Latourette. Et là, j'en suis justement à toute la période des Lumières jusqu'au début du XXe siècle. Et vous savez que parfois, nous, on dit, ça doit être l'époque la plus mauvaise pour les chrétiens que l'on ait jamais connue. On bafoue le nom de Dieu, n'est-ce pas? On dit, c'est accessoire. On nous traite presque comme des benets, hein, comme des gens inoffensifs, mais un peu bizarres. Mais bon, ils sont gentils quand même, hein. Gentil, parfois, ça veut dire bête, n'est-ce pas? C'est un peu ce qu'on veut dire. Ben, on sait très bien que le monde n'a pas besoin de ça. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais regardez, on a appelé ça l'âge des Lumières parce qu'on estimait que le Moyen-Âge était l'âge des ténèbres, alors que quand même, pendant toute cette période, les gens connaissaient Dieu, ont fait et dit énormément de choses utiles sur Dieu et pour Dieu et par la grâce de Dieu. Et puis, il y a les Lumières, où on a commencé à rejeter l'idée de Dieu. Descartes, quelqu'un qui était croyant, a dit, mais non, mais d'accord, hein, il faut croire en Dieu, c'est très bien que Dieu soit là. Mais en ce qui concerne la réflexion, il faut se baser sur ce que l'on voit, ce qu'on peut toucher. Hein. Je pense, donc, je suis, n'est-ce pas? Vous pouvez même dire en latin. Et moi, je me dis, quand même, le bon vieux Augustin, certains chrétiens n'aiment pas Augustin, hein, mais il a quand même dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il a dit « je doute, donc je suis hein. ». Donc moi, je me situe, et ce qui m'étonne, c'est que j'ai un rapport avec ce Dieu qui m'a créé, et parfois je me dis « mais Dieu, je ne sais pas si vraiment je comprends ce que tu fais hein. ». Donc il a ce rapport avec Dieu hein, qui est un peu le nôtre aussi, parce que, avouons-le, hein, parfois on se dit « je ne comprends pas, hein, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça hein, pourquoi est-ce que les bons souffrent et que les mauvais ont la vie facile et, on, et puis on se dit, ben oui, mais aussi, ça aussi, c'est aussi vieux que les psaumes, alors j'ai rien inventé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand même, hein, on parle de Descartes, on passe par Leibniz, qui est en fait un héros à moi-même, mais on dit quand même hein, qu'il, avec l'histoire des monades et tout ça, il a inventé une sorte de quelque chose entre la philosophie, la métaphysique et la physique, où Dieu n'est pas nécessaire. On arrive à Darwin, encore un homme qui, au fond de lui-même, n'était pas contre Dieu, hein, mais qui a dit, bah, peut-être que les espèces se sont évoluées comme ça, hein, et puis je pense que ce sont d'autres personnes qui ont dit, ah, chouette alors. Hein. Avec cette idée-là, on n'est plus obligé de croire à un créateur. Et s'il n'y a pas de créateur, je peux faire ce que je veux. Il n'y a personne pour me dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Merci, monsieur Darwin. Hein, je crois que c'est... Franchement, bon, ça, c'est moi qui invente l'histoire, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un peu comme ça que ça s'est passé. Hein, et puis, nous, chrétiens, on dit, ah, Darwin, bah, ce monsieur Charles Darwin, hein, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Bon, lui, c'était un chercheur. Hein. Et je ne sais pas hein, exactement quelle est la vérité dans tout ça. Je n'ai pas besoin de savoir. Ce que je sais, c'est que derrière tout ça, il y a Dieu qui veille. Et puis, on arrive à la fin du 19e siècle, et il y a le monsieur avec la grosse moustache, n'est-ce pas, qui a dit que Dieu est mort. Comment il s'appelle, le monsieur avec la grosse moustache? Vous voyez, vous connaissez. Hein merci. Hein parfois, j'oublie des trucs. Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Il a dit beaucoup plus que ça, d'ailleurs. Hein, c'est une lecture très... très difficile. Je comprends pourquoi il a fini à l'asile d'ailleurs. Mais quand on dit qu'il a inventé l'idée du surhomme qui a beaucoup intéressé un certain monsieur Hitler, il ne disait pas ça nécessairement pour dire les choses devraient être comme ça, mais attention, ça pourrait être comme ça et ce sera peut-être pas bien pour l'humanité. Mais n'empêche que. Ce que je voulais dire, c'est que nous, aujourd'hui, on a vraiment parfois l'impression de vivre à l'époque la plus néfaste pour la foi chrétienne. C'est peut-être pas vrai, hein? Parce que quand même, nous, on peut regarder tout ça et dire, ben, quand même, hein, il y a longtemps que Monsieur Nietzsche a dit que Dieu était mort, et il se trompe sur deux choses, à mon avis. Nous sommes maintenant au XXIe siècle et l'Église n'est pas morte. Les chrétiens n'ont pas disparu. Quand on prend les choses globalement, d'ailleurs, il y a de plus en plus de chrétiens sur la terre. Nous, en Europe, on a l'impression que l'Église un peu comme se rétrécit comme une peau de chagrin. Mais quand on regarde l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc., l'Inde, même les pays musulmans, l'Église est en expansion. Il y a de plus en plus de chrétiens. Et vous et moi, nous sommes là pour dire quoi? J'ai confiance en la vie parce que je sais que Dieu est là. Il est dans mon cœur, je le vois dans ma vie, je le vois dans la réponse à mes prières, je le vois justement dans mon Église. J'aimais bien la vieille blague du temps de la guerre froide. On a demandé à un Tchécoslovaque: est-ce que vous considérez les Russes comme des amis ou comme des frères? Il a dit: ah, des frères. On choisit ses amis. Alors, dans un sens, hein, on est frères en Christ, on ne s'est pas choisi. Hein. Vous voyez, vous avez moi comme frère, hein, vous n'y pouvez rien, hein, je suis désolé pour vous. Hein, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, on est tous différents les uns des autres. Parfois, on ne se comprend pas. Parfois, on a du mal à se comprendre. Mais on est frères parce que nous savons que Dieu a donné son Fils pour chacun de nous. Et c'est le deuxième point sur lequel Nietzsche s'est complètement trompé, c'est qu'il croyait annoncer une nouvelle en disant « Dieu est mort ». En fait, il avait 2000 ans de retard, n'est-ce pas? Ou 1900 ans de retard. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie sur la croix pour l'humanité et la mort n'a pas pu le retenir. Alors nous pouvons regarder l'avenir avec plein de confiance. Ça ne veut pas dire hein, que d'ici 20 ans, on sera tous dans des églises de 200, 500 membres. Non. Peut-être qu'il y aura moins de chrétiens. Quelqu'un a dit, peut-être à notre époque en Occident, tout ce que Dieu nous demande, c'est de tenir bon. Peut-être qu'en ce moment, effectivement, l'Église passe par une période difficile où on ne va pas avoir une croissance énorme dans nos pays d'Europe. Mais ça, c'est entre les mains de Dieu. Il nous demande d'être fidèles. Et la croissance viendra peut-être par notre façon de ne pas avoir peur de nous poser des questions, de ne pas avoir peur d'écouter ceux qui sont à l'extérieur, de ne pas les considérer comme des ennemis qui veulent absolument détruire notre foi, mais des gens qui sont à la recherche de quelque chose exactement comme nous le sommes ou nous l'avons été avant notre conversion. C'est très intéressant, n'est-ce pas, de discuter avec des gens de tous bords, et de toute philosophie et toute religion, et de leur demander, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait marcher, hein? Qu'est-ce que vous trouvez est fondamental dans la vie? Et parfois, à notre grand étonnement, on dit, ben, je suis 100% d'accord. Et on peut même dire, et c'est pour cela que moi je suis chrétien. Ah, le temps passe vite. Je n'ai même pas cité la Bible alors que j'avais des passages. Alors, il faut que je me rattrape là. Donc, très rapidement, vous pouvez chercher si vous voulez. Je sais qu'il y a au moins une personne dans cette assistance qui a écouté de temps en temps ce que je dis. Et cette personne pourra me dire quel est le dessein de Dieu. C'est en Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. C'est Renfrew. 3 à 14, le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est de tout réunir sous un seul chef, Christ. Or, dans ce merveilleux passage que vous pouvez regarder chez vous, c'est vraiment un poème que Paul a écrit pour débuter cette épître. Il y a tout l'évangile là-dedans. Et il dit que ce que Dieu veut, c'est que l'univers soit soumis à Christ. Ce n'est pas encore le cas. C'est quelque chose qui est en devenir, quelque chose en mouvement, et nous faisons partie de cela. D'ailleurs, je voudrais juste vous signaler quelque chose. C'est que quand on regarde bien ce passage, je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire là, et le temps passe. Dieu est en train de dire Écoutez, vous êtes devenu chrétien et parfois vous pensez, ah c'est ça, Dieu est venu pour me sauver, je suis sauvé, alléluia, maintenant je vais au ciel tout à l'heure, ou à la fin de ma vie, mais c'est, ce ne sera pas long, hein. Et puis voilà, je serai au ciel, éternité, formidable. Mais non, ce n'est pas ce que le passage dit. Le passage nous dit que Dieu nous a sauvés, il nous a récupérés parce qu'il avait besoin de nous pour promouvoir son projet. Nous faisons partie du projet de Dieu. Vous savez, hein, aujourd'hui, si on donne un verre d'eau à un prisonnier ou un morceau de pain à celui qui a faim, au nom du Christ, c'est vous et moi qui le ferons. Ça ne tombera pas du ciel comme une manne parce que Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme ça. Il a dit, je vous confie la tâche d'être Emmanuel. Jésus a bien dit à ses disciples, je suis venu un certain temps sur la terre, je m'en vais. Lisez bien hein, ce que Jésus dit à la fin de l'évangile de Jean. Je m'en vais, maintenant c'est à votre tour. Je vous confie la tâche que moi j'ai commencée. Et c'est à nous de continuer. L'Église grandira d'une façon ou d'une autre. Quand nous comprendrons que nous n'avons pas été sauvés juste pour que nous puissions dire « Ah, mes péchés sont pardonnés », Dieu nous a pardonné nos péchés pour que nous devions utiles pour ce monde. C'est ça la croissance de l'Église. Point numéro 1. Vous avez retenu ? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Roland pourrait vous dire, c'est le passage qui est dit « Nous avons ce trésor dans des vases de terre. » Et il dit, c'est une puissance incroyable que Dieu a mis dans les vases de terre. Alors si vous pensiez, si parfois vous regardez dans le miroir et vous dites, est-ce que je suis beau? Eh bien la Bible vous dit que vous êtes un vase de terre, d'accord? Que vous soyez beau ou non, hein? Il y a albâtre, etc. Hein? Ou bien il y a carrément des choses qu'on met sous le lit. Mais bon, il y a toutes sortes de vases de terre, mais... Voici ce que nous sommes. Et en dedans de nos cœurs, dans notre pensée, dans notre façon d'être, il y a la puissance de Dieu. Et parfois, ce n'est pas très visible. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Ben, il le dit. Hein? C'est pour que nous ne nous glorifions pas. Arrogance, orgueil. Vous voyez le message de Pierre encore une fois. Il dit... Ne vous donnez pas trop peu ni trop d'importance. Nous sommes coéquipiers avec Dieu. C'est incroyable. Le Dieu de l'univers veut travailler dans ce monde avec nous, à travers nous. Mais il y a attention, hein. C'est un peu comme la puce qui se trouvait dans l'oreille d'un cheval qui a traversé un pont. Évidemment, c'était un tout petit pont branlant. Alors, l'éléphant a eu peur à un moment donné que ça casse. Et arrivé de l'autre côté, la puce dit à l'éléphant, on l'a bien secoué, hein, ce pont. Hein, c'est un peu comme ça, hein, entre nous et Dieu. Hein. On a juste notre petit rôle à jouer, mais il est capital, ce rôle. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas le temps d'aller plus dans le détail, mais lisez ce passage, 2 Corinthiens chapitre 4, où Paul dit, on est parfois découragé, mais on ne perd pas courage. On est abattu, mais on n'est pas à terre. Et Paul, lui, il a fait de la prison, il a été lapidé, et vous vous dites parfois, notre vie est difficile. N'est-ce pas? Je voudrais terminer avec une prophétie de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. En Ézéchiel, chapitre 37, il y a deux choses dans ce chapitre. Il y a la vallée des ossements desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel, le prophète va prophétiser à ces ossements. Dis-leur de se lever. Alors ils se lèvent. Il y a même des gens qui en parlent. Hein. Moi, j'imagine ça, hein, ces ossements qui se rassemblent, etc. Et puis, qui commencent à marcher. Et ce qui est important, c'est que Dieu dit, voilà, vous avez donc maintenant cette armée d'Israël, des ossements séchés, puis après, il y a des nervures, et finalement, il n'y a pas uniquement les os. Hein. Mais l'important, c'est que Dieu dit, moi, je mets mon esprit en eux. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas mon esprit. Alors, c'est très bien, monsieur le prophète, de les avoir suscités, hein, et d'avoir fait que ces ossements marchent, mais ils n'ont pas de vie. Pour que ça vive, il faut que moi, je mette mon esprit dans leur cœur. Et puis après, il dit, maintenant, je veux que tu prennes deux bâtons, deux morceaux de bois, et que tu vas écrire Israël et Juda sur ces deux morceaux de bois, et tu vas les mettre ensemble. Et tu vas dire au peuple, voilà, Dieu va réunir son peuple. Il va réunir son peuple. Et avec cette idée, je voudrais terminer cet après-midi. Nous sommes le peuple de Dieu. Et parfois c'est facile, hein, dans des moments comme ça, hein, moi j'ai beaucoup d'amour pour vous. Hein. Et c'est bien d'être ensemble. Quand on travaille avec quelqu'un, même dans l'œuvre du Seigneur, parfois on n'est pas aussi d'accord que ça, et c'est difficile. Parfois on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ne lisent pas la Bible comme moi, je lis la Bible. Parce qu'après tout, moi je sais que je comprends la Bible. Alors si tu ne comprends pas, eh bien c'est que tu as un problème. Ou si tu dis, non si j'ai compris, et que tu n'as pas compris ce que moi j'ai compris, eh bien tu as un double problème. Et si l'Église va grandir, eh bien d'une manière ou d'une autre, il faut, non pas que l'on trouve une solution à ce problème, parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un problème que l'on peut résoudre une fois pour toutes. Quand la Tourette est dans son livre, dans son histoire de l'Église, il fait quelque chose de très intéressant. Il a dit, quand l'Église est en pleine croissance, ça part un peu dans tous les sens. Alors parfois il y a des disputes, et parfois, surtout à l'époque de l'Église catholique, avant la réforme, on essayait par l'autorité, hein, d'imposer un point de vue en disant, c'est ça l'orthodoxie, hein, et il ne faut pas dire autre chose, sinon vous êtes des hérétiques et vous vous chassez. Et puis les protestants sont arrivés, et là c'était à des bandades. Hein. Ça partait vraiment dans tous les sens, ils ne sont pas d'accord entre eux. On ne sait pas trop ce qu'ils pensent entre un évangélique et un anglo-catholique, etc. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais la Tourette a dit, j'ai remarqué que c'est vrai, hein, qu'il y a ces dissidences, ces difficultés, ces manques de compréhension, parfois, carrément, on dit des choses, on comprend des choses différentes dans la Bible. Il dit, mais apparemment, ça ne nuit pas à la croissance. Et que justement, dans cette effervescence, il y a des gens qui aiment le Seigneur et qui veulent vraiment travailler pour lui, qui veulent faire quelque chose. C'est remarquable. Hein? Nous sommes quand même un peu touché par ce problème. Il faut préserver l'unité, mais ça ne veut pas dire qu'on se dise, ben, finalement, bon, personne ne peut comprendre la Bible, la vérité, hein, elle est changeante. Pierre a bien dit tout à l'heure, hein, la vérité, hein, elle est là, elle est inchangeable, elle est là pour tout le temps, et nous le croyons parce que Dieu ne change pas. Et il nous a donné ça dans sa parole. Mais notre compréhension peut être différente. Et il faut qu'on soit à l'écoute les uns des autres, sinon la croissance dans l'Église, la croissance spirituelle de l'Église n'est pas possible. Vous voyez, je n'ai pas des morceaux de bois, mais j'ai ici un rouleau de papier, c'est marqué. C'est marqué dessus.
Unité.
Unité. Et là, c'est marqué vérité. Et parfois, on se dit, ben, si vraiment on est trop attaché à la vérité, il n'y aura pas d'unité. Et si on est trop attaché à l'unité, eh bien, il faut accepter plusieurs vérités. Et si nous croyons vraiment ce que la Bible dit sérieusement, Dieu, Jésus a prié instamment son Père avant de mourir. Si qu'il soit uni. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si ça va fonctionner, hein, mais d'une façon ou d'une autre, il faut que la vérité et l'unité soient unies. Et nous, ça m'a fait, je ne comprends pas pour moi. Pour que ce soit uni. Comme ça. Hein. Unité, vérité, indissociable. Source de conflit parfois, de manque de compréhension entre frères, mais d'une manière ou d'une autre, il faut poursuivre. Il y aura toujours des gens qui vont très loin pour aller chercher des gens dans le monde. Et on se dira peut-être, mais ils... Non, là, franchement, hein, ils sont allés tellement loin dans leur association avec le monde, dans leur façon. Ils comprennent tellement le monde que je demande s'ils comprennent encore la Bible. Alors, à l'autre extrême, il y aura des gens qui disent, ben non, il faut faire très attention, hein, il faut vraiment rester attaché à la Bible, à la parole de Dieu. Hein. Et moi, je ne fais pas confiance à tous ces gens qui ont des idées neuves. On les appelle des progressistes, comme si la foi pouvait progresser. N'empêche que la foi a beaucoup changé, ou plutôt notre façon de comprendre la Bible a quand même beaucoup changé depuis 100 ans, je dirais même 50 ans, encore moins 200 ans. Donc il faut remercier le Seigneur pour des gens qui comprennent le monde, même si parfois leurs propos nous choquent, nous chrétiens, et on se dit, est-ce qu'ils sont encore chrétiens? Et nous avons besoin des gens ultra-conservateurs qui nous disent, attention, il faut rester attaché à la parole de Dieu. On a vraiment besoin des deux. On ne peut pas séparer les uns des autres. Il nous faut la vérité et il faut que l'on soit unis. Il faut que les chrétiens... Je dis il faut, c'est mon opinion, mais vous voyez, j'y crois tellement fort que je ne peux pas modérer mon langage. Il faut que ça reste attaché. Vous voyez. Alors, si je lâche au milieu maintenant, ah oui, je ne suis pas David Copperfield. Hein. Je ne suis même pas Garcimore, la preuve. Oui, parce que moi, je suis un homme. Donc, si vous avez cru un moment que j'allais faire un tour de prestidigitation, désolé de vous avoir déçu. La leçon est la suivante. Ce n'est pas moi qui tiens. C'est nous qui tenons l'Église ensemble. Ce n'est pas nous qui ferons croître l'Église. Priez avec moi. Notre Seigneur, ce monde est parfois difficile à comprendre. Parfois même ta parole a besoin d'être approfondie parce que nous rendons compte que notre compréhension est limitée. Et c'est pourquoi nous te demandons, Père, que tu nous aides à accomplir notre mission ici sur la terre. Que tu nous aides à rester unis les uns aux autres. Que tu nous aides à ne jamais abandonner ta vérité. Que tu inspires chacun de nos cœurs, afin que chacun de nous puisse croître, s'épanouir, grandir dans la foi. Et qu'ensemble, nous soyons la lumière du monde. Nous te prions par celui qui est mort pour nous, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.